Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Ils, elles, sont des milliers jetés chaque année sur les routes de l'exil, forcés de quitter leur pays, fuyant la guerre, la misère, la terreur. Ces femmes, ces hommes, ces enfants partent souvent sans rien. Les poches vides, mais le cœur plein d'espoir vers un ailleurs meilleur. La plupart meurent sur les routes ou se noient. Comment raconter cette odyssée? Comment redonner un corps, une identité, un souffle à ces personnes déracinées? Peut-être par la littérature qui va au-delà des chiffres, des images, des instantanés propres à l'actualité. Peut-être par la fiction, donc, à l'image de ce premier roman intitulé « Nafar », paru aux éditions Liana Lévy. Bonjour Mathilde Chapuis.
Bonjour.
Nafar, mot qui vient de l'arabe classique, désigne désormais par extension les migrants. Et en effet, ici, dans votre premier livre, vous racontez la traversée d'un Nafar, donc, puisqu'il n'a pas de prénom, un Syrien qui a fui son pays et qui est de passage en Turquie, en transit vers la Grèce, qu'il veut rejoindre en traversant le fleuve du Meriç. Est-ce à Istanbul, où vous avez vécu de 2013 à 2015 et où vous avez sans doute croisé des exilés syriens, qu'est née l'idée d'écrire ce livre ?
Oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'idée. C'est venu comme quelque chose qui s'est imposé. J'observais, j'étais témoin au quotidien de la lutte d'exilés syriens pour parvenir jusqu'en Europe, donc traverser cette frontière qui permet d'accéder à la Grèce. Et mon but premier était de dénoncer cette injustice. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire. Ensuite, il y a eu de nombreuses étapes d'écriture, de réécriture. Et le plan du livre, l'objectif du livre a changé. Mais en tout cas, c'est bien là-bas, à Istanbul, au moment où j'observais ces choses, que le livre a commencé de s'écrire.
Donc d'une certaine façon, Mathilde Chapuis, c'est presque une vocation d'écrivain qui naît en même temps que l'idée du livre, où vous aviez déjà en vous cette envie d'écrire.
Oui, j'avais déjà en moi cette envie depuis longtemps et j'écrivais avant même de décider d'aborder ce sujet. Mais c'est vrai que là, il y a eu une sorte de, je sais pas, de rencontre à divers égards qui a fait que ce récit-là en particulier a abouti et le texte a été publié et maintenant partagé. Donc, mais ça vient pas. Mon envie d'écrire ne vient pas de là. Elle était déjà présente.
L'histoire de cet homme nous est donc racontée par une narratrice dont on va découvrir que c'est une Française. Il se rencontre à Istanbul, dans le petit café où lui travaille. Alors c'est une femme dont on ne sait rien, ni son nom, ni son âge, ni sa profession. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui et qu'elle décide de raconter les épreuves de ce Syrien, ses tentatives d'évasion, j'ai envie de dire, à commencer donc par celle qui ouvre et sert de fil conducteur tout au long du roman, la traversée du Meriç, ce fleuve frontière entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que pour documenter cette fiction, néanmoins, Mathilde Chapuis, vous vous êtes rendue sur les rives de ce fleuve pour voir à quoi ça ressemblait exactement?
Oui, j'y suis allée plusieurs fois et même une première fois quand je comptais pas situer l'action principale du livre à cet endroit-là. Ça m'intéressait beaucoup de voir à quoi ça ressemblait, cette frontière, ce lieu de passage si porteur de tensions. Et j'y suis allée une première fois, je pense, en 2013 ou 2014. Donc à Edirne, cette ville turque qui est proche, toute proche de la Bulgarie et de la Grèce. Et puis, quand, une fois que j'ai pris cette décision d'écrire, enfin, que le fil conducteur, le fil rouge de cette histoire serait cette traversée du Mérite, ou cette tentative de traversée du fleuve, alors j'y suis retournée il y a à peu près un an, où là, j'ai pris des notes et des photos. Bon, bien sûr, j'ai pas traversé à mon tour illégalement la frontière, mais enfin, j'ai tenté de
vous imprégner?
De m'imprégner, de voir vraiment où est-ce que ça a pu se situer, d'imaginer les coins, de voir, de sentir l'atmosphère, de m'imprégner au maximum pour essayer d'être la plus vraisemblable possible. Et ça, c'était un exercice très, très important pour moi.
En tout cas, c'est vrai que elle, par votre plume, raconte donc cette tentative désespérée de quitter la Turquie vers la Grèce en nageant, lui qui ne sait pas nager. Elle imagine la peur, la faim, le froid, les soldats qui rôdent alentour, l'obligation de se cacher pour attendre la nuit. Ça se déroule sans doute sur plusieurs jours. Et elle dit, vous écrivez, parce que je fais une différence évidemment entre l'auteur et la narratrice, elle dit exactement page 35, j'ai de la compassion pour ce corps qui n'en est qu'aux prémices d'une longue série d'épreuves. Je ressens ce que la peur l'empêche de ressentir. Le fourmillement, le picotement, le mouillé, le glacé. Je suis tout près, je suis dedans et je vis ce qu'il vit. Fermez les guillemets. Comment Mathilde Chapuis, quand on est une jeune femme comme vous, occidentale, française, on vit de l'intérieur ce que peut vivre un exilé syrien?
De manière impromptue, enfin, je me suis retrouvée confrontée à être témoin d'une situation que je trouvais scandaleuse. Comment des personnes qui ont fui leur pays à cause de la guerre se retrouvent à devoir traverser des frontières illégalement, risquer à nouveau leur vie. Et donc, je suppose qu'il y a une forme d'empathie maximale qui se développe à ce moment-là quand on est particulièrement touché par une situation, par des personnes individuelles. Je parle très globalement. Évidemment, il y a des individus qui m'ont touché plus que d'autres. Et c'est bien ça le récit. On parle d'un homme, d'un jeune homme, d'une personne dont on raconte des bribes d'histoire, de passé. Et donc voilà, c'est comment on travaille à partir de cette émotion première, ce sentiment d'injustice qu'on observe et comment ensuite on travaille sur ce... Comment on fait résonner, en fait, mais tout le travail, enfin cette narratrice qui se positionne quand même petit à petit dans le récit, elle trouve sa place progressivement. C'est tout un travail à la fois, oui, de distance et de proximité, en fait. Trouver sa place pour cette narratrice, c'est à la fois explorer les plus petites choses de l'intimité et puis aller chercher des informations globales sur le territoire que ce personnage traverse. Et c'est ça qui se joue à cet endroit-là.
Est-ce que vous êtes allé puiser dans des propres souvenirs de peur, d'angoisse?
Je pense que... Oui, c'est sans doute comme ça que se débrouillent tous les romanciers, je ne sais pas. Je peux imaginer en tout cas que oui, pour essayer d'exprimer une peur que je n'ai pas vécue, j'ai dû imaginer ou aller retrouver sans doute des peurs qui étaient miennes, certainement, oui.
La question de la frontière, c'est une question à laquelle vous êtes particulièrement sensible?
Je le suis devenue, mais je ne crois pas qu'il y ait eu des prémices particulières à ça, si ce n'est le fait que je sois née... toute proche de la frontière suisse, mais c'est pas une frontière qui...
Dangereuse.
Oui, en tout cas, plus aujourd'hui. Donc, je dis plus aujourd'hui, c'est pas qu'elle l'ait particulièrement été, mais il y a des moments où elle était plus marquée, disons. Donc, je dirais pas. Je pense qu'aujourd'hui, oui, ces questions de frontières m'intéressent tout particulièrement, mais c'était pas... avant que je décide ou que je fasse ces rencontres, c'était pas le cas. Je crois pas.
C'est l'histoire d'une traversée dans tous les sens du terme, physique d'abord, puisqu'il faut donc nager pour passer d'une rive à l'autre, mais aussi culturelle, puisque c'est quitter l'Orient pour l'Europe. Et c'est aussi une traversée de nature existentielle, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer le Mérite au Styx, qui était l'un des fleuves de l'enfer dans la mythologie grecque. obstacles à franchir pour sortir du monde des morts et aller vers celui des vivants. Et il semble bien, en effet, ici, que votre personnage, dont on découvre en effet par bribes le passé, menait une vie normale à Homs, où il avait un café, qui était un peu une galerie d'ailleurs, avec son meilleur ami, et qu'il a été mais éjecté de la normalité et de sa vie par la guerre, et que il s'est retrouvé dans un enfer malgré lui, dont il essaye de sortir à toute force, et donc ici par le mérite. Est-ce que Mathilde Chapuis, vous voyez en effet un lien entre la réalité contemporaine et les tragédies grecques?
C'est intéressant en tout cas que vous parliez du Styx, parce que j'y ai pensé, donc ce fleuve des enfers dans la mythologie grecque, où les âmes des morts circulaient. Je ne sais pas si je vois un lien entre ce qui se passe aujourd'hui et des tragédies grecques, mais par contre, je sais que tous ces éléments de la mythologie font partie de mon bagage, puisque j'ai étudié les lettres à l'université, mais m'ont vraiment intéressée parce que je voyais dans le personnage, le personnage principal de mon récit, la narratrice cherche à faire de lui un héros. Pour lui, toutes les possibilités qui lui permettraient d'aller jusqu'au bout de son trajet. Alors, elle lui offre en imagination divers objets comme ça qui pourraient l'aider, notamment le casque d'Hadès, qui est le casque que mettent les morts quand ils arrivent dans les enfers, en fait. Mais qui est aussi un casque qui, quand il est porté par un vivant, rend invisible l'être donc qui le porte. Et donc le personnage de mon récit, comme il doit passer inaperçu devant les soldats turcs qui surveillent le fleuve, s'en empare. En tout cas, la narratrice imagine qu'il pourrait s'en emparer pour se sauver. Et donc je fais beaucoup de liens, si vous voulez, mais je ne sais pas si on peut mettre en parallèle des tragédies grecques.
Non, mais ce que je trouve très juste, c'est l'image de l'enfer. Les enfers grecs, d'un côté, qui ont nourri toute cette littérature qu'on connaît bien, l'Iliade et l'Odyssée, et c'est bien pour ça que j'employais le terme d'Odyssée au début de cette émission. Et les enfers d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'enfer sur Terre? C'est ces pays et ces peuples qui sont totalement martyrisés et à qui il faudrait bien tendre la main peut-être pour qu'ils en sortent et les aider à traverser ces fleuves.
Oui, certainement. Je ne sais pas si c'est l'enjeu principal de mon récit, mais quand vous parlez d'enfer, je pense à plusieurs choses. Bon, évidemment, on peut penser à ce qui se passe en Syrie depuis 8 ans. Et bon, ce qui se passe en Syrie depuis 8 ans, c'est-à-dire des conflits armés très violents, mais aussi ce qui se passe en Syrie depuis très longtemps, puisque en fait, le pays était est toujours soumis à un dictateur, à un régime autoritaire très très violent aussi. Mais ce qui se passe dans mon récit et là où peut-être les enfers se situent, c'est plutôt dans l'attente. Comment, en fait, ces personnes qui cherchent leur terre promise sont soumises à un piétinement qui est infernal, en fait, qui a quelque chose de profondément avilissant. Parce que l'attente, l'espoir au quotidien, et puis le départ, et puis le retour, parce que, en fait, les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait. Pour moi, il y a là-dedans une forme d'enfer, mais qui serait pas l'enfer grec, mais qui serait plutôt un enfer tel qu'on l'entend là-dedans. Oui, en fait, c'est le point que je développe dans mon récit, je crois, c'est ces tentatives multiples qui échouent et qui produisent sur les personnes qui en sont victimes des effets, à mon avis, dramatiques.
Si le Meriç est le nom turc, en Bulgarie, ce fleuve est appelé la Maritsa, qui a donné son titre à une chanson de Sylvie Vartan, chanteuse française d'origine bulgare, et vous citez les paroles de cette chanson, Mathilde Chapuis. C'est un morceau que vous aimez ou que vous avez appris à aimer?
Oui. Oui, la narratrice du récit met beaucoup de choses en œuvre pour essayer de comprendre là où se trouve le personnage et ce qu'il vit. Et elle cherche donc des informations sur ce fleuve et découvre qu'une chanson existe qui s'appelle La Maritsa, le nom donc du fleuve en bulgare, et que cette chanson, interprétée par Sylvie Vartan, parle d'exil, en fait. Et je ne connaissais pas du tout cette chanson. Je me suis aperçue ensuite qu'en fait, elle était assez connue et populaire. Elle
c'est,
l'a été.
C'est fait. Pas de votre génération ?
C'est pas de ma génération, mais en tout cas, je l'apprécie beaucoup aujourd'hui, oui, en fait. Je l'ai écoutée, mais des dizaines et des dizaines de fois. Je m'en suis vraiment imprégnée. Et je la réécoute toujours avec plaisir.
C'est ce que nous allons faire.
Mais il n'y a que mon père maintenant qui s'en souvient. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien. Pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Mathilde Chapuis, auteure d'un premier roman intitulé Nafar, paru aux éditions Liana Levy. L'histoire, on l'a dit, d'un Syrien qui est en transit en Turquie et qui veut passer en Grèce. Et dans un monde idéal, aller en Suède. Pourquoi la Suède, selon vous ?
Alors dans le récit, je propose quelques clés. Ça serait parce que c'est le pays le plus éloigné, ou un des pays les plus éloignés de l'Europe, le plus au nord, le plus à l'ouest, le plus inatteignable et donc le plus porteur de... Celui qui peut faire émerger des rêves comme ça ou des fantasmes parce qu'on ne le connaît pas, on n'en connaît ni la géographie exacte, ni la culture, en tout cas les personnes qui désirent s'y rendre ne connaissent rien de ce pays, si ce n'est qu'on leur a dit qu'il était particulièrement accueillant pour les gens dans leur situation. Et oui, il y a un côté vierge dans la Suède. On peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est l'endroit où on va pouvoir renaître. En tout cas, c'est comme ça. Mais c'est vrai que la Suède, dans le récit, on n'y va jamais, mais c'est le moteur, c'est la destination finale.
C'est l'Eldorado.
C'est l'Eldorado, oui.
La Suède et non plus la France, qui ne semble plus être considérée comme le pays des droits de l'homme, de la femme. Vous l'avez constaté, vous aussi, Mathilde Chapuis, les exilés ne veulent pas aller en France.
J'entendais très rarement parler de la France quand j'étais à Istanbul, parmi les Syriens que je fréquentais alors, la France n'était jamais ou quasiment jamais mentionnée. C'était l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède principalement, ou peut-être la Norvège aussi, en tout cas des pays du Nord, la France n'étant pas considérée par eux comme un pays du Nord. Donc la France n'était pas du tout une destination, sauf pour des personnes qui éventuellement auraient eu de la famille déjà, mais on n'arrivait en France que par défaut.
Et parmi les nombreux obstacles pour arriver à la destination rêvée, il y a des dangers, évidemment, mais parmi lesquels les gens sur le chemin qui tendent la main ou parfois trahissent, et c'est ce qui arrive à votre personnage. Des civils le dénoncent à la police. Votre narratrice ne leur jette pas la pierre, Mais à contrario, est-ce que ce sont ceux qui ont le courage d'aider ces migrants, même si ça les met hors la loi, qui devraient avoir toute notre admiration?
Bien sûr. Oui, je peux pas développer. Je crois que oui, évidemment, ce serait fondamental. Déjà qu'ils ne soient pas condamnés, qu'ils ne soient pas poursuivis pour ce qu'ils font. Et ensuite, évidemment, qu'on considère à quel point c'est important, en fait. Mais le fait que des personnes soient obligées de se mettre dans de l'illégalité pour sauver des vies ou des avenirs, c'est quand même dramatique. Ça en dit beaucoup sur notre société.
Qu'est-ce que vous auriez pu faire, vous, Mathilde Chapuis, en Turquie, par exemple?
Ben, pas grand-chose, en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait grand-chose. Je sais pas. En tout cas, à part l'écriture, ce que je pouvais, de la manière dont je pouvais agir pour aider ces personnes. Alors, quelquefois, j'ai été au consulat français, demander quelles démarches on pouvait faire pour obtenir un visa, par exemple. Mais c'était marginal, déjà parce que personne, je l'ai dit, ne voulait aller en France. Donc, je ne pouvais pas aider les personnes qui voulaient aller dans d'autres pays. Et ensuite, parce que ces démarches officielle, celle qui permet d'arriver en France depuis la Turquie de manière légale, en fait, sont soit beaucoup trop longues, soit vouées à l'échec. Donc en réalité, c'était légalement très difficile d'aider.
Et est-ce qu'il y avait des réseaux clandestins dont vous aviez connaissance?
Ah ben ça fonctionnait justement que comme ça. Enfin, oui, bien sûr, ça ne fonctionnait que via des réseaux clandestins. Au début de l'émission, j'ai parlé de passeurs. Il existe toute une hiérarchie de personnes qui font passer, qui organisent des passages.
C'est un roman sur l'exil non voulu, évidemment, le chemin de croix de la migration. C'est un roman d'amour aussi, entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, mais qui s'en inventent une troisième. Et puis, vous avez commencé de le dire un peu plus tôt, Mathilde Chapuis, c'est un livre sur l'écriture. Écrire pour raconter ses histoires, pour témoigner aussi, et pour protéger. À l'image de ce passage, page 104 de votre roman, où voilà ce que dit votre narratrice, qui est donc aussi l'auteur de ce récit. « Raconter est mon seul pouvoir. » Écrire est une réponse à ce qu'il se trame de l'autre côté de la cloison. Moi qui sur ma chaise, moi qui dans ma cour attends le départ du héros ou bien son retour, je cherche des épisodes de sa grande aventure sur lesquels je pourrais avoir prise. J'observe, je consigne et j'invente. J'agis en sorcière, en déesse ou en fée. Je te porte de toute la force de mon esprit. J'influence le déroulement de ton trajet. Comme lorsque j'étais enfant. Chaque soir, je construisais la muraille qui devait protéger ma famille et moi-même d'envahisseurs maléfiques au moins jusqu'au matin. J'avais peur que de la nuit naisse un bouleversement inattendu, que change ou disparaisse ce que j'aimais sans pouvoir rien y faire. Cette muraille n'était composée que de mots, ni prononcés, ni chuchotés, mais pensés intensément. Je demandais qu'aucune maladie ne nous atteigne, moi et ma famille, ni aucun voleur ne pénètre dans la maison, et s'il faisait froid ou s'il y avait de l'orage, que mon chat ait trouvé un abri pour se protéger. Chaque phrase était une brique à superposer pour bâtir cette enceinte. Il ne devait en manquer aucune, sans quoi ce que je craignais n'aurait pas manqué d'arriver. Fermez les guillemets. J'ai souhaité lire cet extrait parce que il m'a semblé que dans ce passage, vous imaginiez l'écriture effectivement comme un don ou quelque chose de divinatoire, en tout cas, qui permettrait de protéger les gens. C'est ainsi que vous l'entendez aussi?
Dans ce récit en particulier, je ne sais pas si je l'envisage comme ça pour tous les récits que je lis ou que j'aurais envie d'écrire, mais ici, la narratrice dévoile sommairement le dispositif, le parti pris narratif donc du récit, et explique que pour raconter cette histoire, elle met en place diverses choses, notamment elle fait participer son imagination pour sauver in extremis ce personnage qui rencontre de nombreux obstacles. Et les mots ici ont toute l'importance, c'est eux qui vont permettre de faire exister le personnage, de faire exister l'obstacle et de déjouer l'obstacle. Et cette narratrice, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'elle voulait éventuellement s'identifier à ces déesses ou à ces divinités qui accompagne le héros, ici, avec ses mots, c'est ce qu'elle fait. Et je voulais revenir aussi sur le fait que les deux personnages, donc la narratrice et le personnage qui vit l'action, inventent une langue entre eux, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. En tout cas, leur langue commune, c'est un anglais, mais un anglais lacunaire, maladroit. Et ils ont, parmi les mots qu'ils inventent, un mot d'Iker, qui est en fait un amalgame de deux mots, un mot turc, dikkat, qui veut dire attention, et teker, l'expression anglaise, qui veut dire prends soin de toi, sois prudent. Et ce mot-là les accompagne, parce qu'en fait, leur vie quotidienne est faite de multiples dangers, petits et grands dangers. Et oui, en fait, il y a beaucoup de choses... Un des enjeux du texte se situe un peu dans ce mot, c'est-à-dire comment, avec un mot, on essaie de préserver l'autre des dangers qu'on envisage pour lui.
Oui, un sortilège bénéfique. Comme la pensée magique, le mot magique, l'écriture magique qui pourrait influencer le cours de la fatalité.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Aussi bien dans la manière dont la narratrice s'accapare une mission, que dans les mots que ces deux personnages échangent entre eux, oui.
À qui s'adresse ce livre, Mathilde Chapuis ? Quel est votre lecteur, votre lectrice idéale ?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y en a plusieurs avec des profils très variés. Je pense que dans l'idéal, j'aimerais que ça soit des nafars eux-mêmes qui lisent et qui trouvent un écho à ce qu'ils ont vécu. Ce soit aussi des personnes qui ne soient pas du tout conscientes qui n'ait aucune connaissance de ce qui se passe à cet endroit-là du monde. J'aimerais aussi que ce soit mes proches, je crois. Oui, peut-être beaucoup d'autres, mais là, c'est difficile en fait, de répondre à cette question.
Et le fait d'intituler ce roman Nafar, dont on a bien compris sa signification, mais qui en même temps devient presque le prénom de votre personnage, puisque vous ne lui en donnez pas, ce qui lui donne aussi, évidemment, une dimension universelle. C'est cet exilé, mais un autre. Est-ce que Nafar, c'est aussi peut-être pour réhabiliter le sens de ce mot qui a pu, à un moment, être péjoratif ?
Oui. Ce terme, donc, qui avait un sens tout à fait neutre dans l'arabe classique, ça pouvait vouloir dire, quitter sa patrie, aller vers une autre, ou simplement désigner un groupe de personnes, est utilisé par les passeurs en Turquie pour désigner les gens qu'ils font passer, mais comme si c'était une marchandise. Quand un passeur dit « nafar », il nie l'humanité de la personne qu'il désigne. Et des nafars eux-mêmes se sont appropriés ce terme pour le dénoncer, pour dénoncer la situation dans laquelle ils sont. Et moi, en choisissant ce terme, je crois que je fais plusieurs choses. Déjà, j'espère questionner un petit peu le lexique ordinaire quand il est question d'immigration. Donc questionner le lexique qu'on utilise, voir aussi qu'on doit se méfier des termes galvaudés, migrants, qu'on emploie sans cesse et qui me semblent assez problématiques. Et réhabiliter ce terme de nafar, oui, en même temps aussi bien montrer qu'il s'agit d'un terme méprisant, et de voir voilà qu'est-ce que vit une personne à qui on a accolé une étiquette qui vous place comme ça dans une catégorie d'humain inférieur. Donc c'est un terme ambivalent et je veux qu'on conserve toute son ambivalence, enfin qu'on en soit conscient en fait, pas du tout qu'on oublie que c'est un terme condescendant, mais qu'on se permette aussi de l'aimer, voilà, de le trouver beau et de jouer aussi avec les sonorités de ce terme. Donc il y a plusieurs enjeux dans ce titre.
Merci beaucoup Mathilde Chapuis.
Merci.
Je rappelle le titre de ce premier roman, Nafar, qui a été publié aux éditions Liana Lévy.
Littérature sans frontières.